Quand je suis dans mon lit, à l'aube, avec le seul bruit des voitures dans Paris, ma mémoire parfois me trahit. L'été revient et tous ses souvenirs. Quelque chose monte alors en moi que j'accueille par son nom, les yeux fermés. Bonjour, tristesse.
Chère Chouquette du monde entier, je suis sûr que vous avez déjà connu ces fins d'été, pleines de douceur et de mélancolie, comme le raconte Françoise Sagan dans son roman « Bonjour tristesse ». Après un été intense, fait d'amour et de révélations, la jeune Françoise songe avec nostalgie à l'insouciance qui n'est plus, à la joie qui a disparu. C'est la fin de l'été, mais c'est aussi la fin du roman. Elle nous laisse avec ça « Bonjour tristesse », à nous de nous débrouiller avec. Car au fond, c'était la seule vraie question du roman. Quoi faire de la tristesse? Et puis, la tristesse, c'est quoi exactement? La mélancolie, la déprime, la dépression, le mal de vivre? Pour Muriel Magellan, ça a commencé par la perte du rire. Oui, plus envie de rire, plus envie de prendre de la distance, ça aussi, on a tous connu. Flemme de faire comme si tout allait bien alors que tout semble absurde. De cet épisode de vie, Muriel Magellan en a fait un roman, avec le personnage de Mona, une quarantenaire programmatrice informatique, qui après un burn-out bien carabiné, s'est fait larguer par son mec, interné en hôpital psy et s'est vu confisquer la garde de sa fille unique, Madeleine. Ce roman, il s'appelle La Fantaisie, car c'est par elle que Mona a retrouvé le goût de la vie et Muriel Magellan le rire. Aujourd'hui, je la reçois pour comprendre ce qui a poussé celle qui rêvait de devenir chanteuse à l'écriture, pour comprendre également ce qu'elle appelle avec poésie la mélancolie, et pourquoi la fantaisie a été pour elle un remède. Ne prenez que vos oreilles, c'est le temps des chouquettes.
Le temps des chouquettes. Une émission pour les écrivains et les écrivaines.
Un temps sucré et suspendu pour comprendre ce qui les a poussés à écrire. Un temps finalement très chouquette pour revenir avec eux sur leur relation à l'écriture, mais surtout pour les faire parler d'eux, de leur part d'insolites et de leurs anecdotes personnelles, et ce, grâce au pouvoir désinhibant de la chouquette. Alors suivez-moi pour découvrir le fabuleux destin des chouquettes de la littérature française d'aujourd'hui.
Le temps des chouquettes, une émission de Théo Potier, un samedi sur 4 à 17h30 sur Radio Campus Paris.
Bonjour Muriel Magellan.
Bonjour.
Bienvenue dans le temps des chouquettes et merci d'avoir accepté notre invitation. Je viens de le rappeler en introduction, vous êtes arrivée à Paris à l'âge de 25 ans avec le rêve de devenir chanteuse. Finalement, vous avez préféré passer de l'autre côté de la scène puisque vous êtes devenue une dramaturge et une metteuse en scène à succès. Vous avez été co-scénariste de plusieurs films et téléfilms. À succès également, notamment Sous les jupes des filles d'Audrey Dana ou Les petits meurtres en famille diffusés sur France 2. Entre-temps, vous ne vous êtes privé de rien car vous avez écrit plusieurs romans. N'oubliez pas Les oiseaux, Les indociles, Géantes ou changer le sens des rivières pour n'en citer que quelques-uns. Et dans le temps des chouquettes, on s'intéresse à ce qui a poussé les autrices vers l'écriture. Et vous concernant, j'ai lu dans un entretien accordé au quotidien belge Le Soir que vous n'osiez pas aller vers le roman. Vous avez dit « Ma première pièce de théâtre fut ma porte d'entrée, mais je n'osais pas le roman parce que c'était la forme la plus proche. » Vous aviez peur de cette intimité? Vous aviez peur de ce que vous alliez découvrir dans le roman?
Oui, je pense que je portais très haut le roman, qui était mes premières amours, en réalité, dans mon rapport à l'écriture, en tout cas, quand j'étais adolescente à Montauban. Je suis venue à 17 ans à Paris, en fait. Je suis venue tout de suite après le bac. Mais quand j'étais adolescente, je lisais beaucoup. Toutes sortes de romans, tout ce qui me tombait sous la main. J'avais pas du tout de sélection. C'était mes copines en fait qui me disaient ah bah tiens lis ça, ou bien
on se passait
ma
ça
mère
de
me disait
main,
aussi
quoi, ouais.
Des fois lis ça. Donc ça allait de romances de base à Duras, à des grands textes en ouais. fait. Qui me régalait. Mais donc,
ça vous impressionnait un
ça
peu.
M'impressionnait, ouais. Ouais, ça m'impressionnait. J'avais l'impression que c'était pour quand on est vieux,
ah
les
oui.
romans.
Pour
quand on sait écrire vraiment,
okay.
qu'on a beaucoup ouais. vécu. En revanche, la chanson, c'était plus accessible. Et donc, j'écrivais des chansons, des formes courtes, des poèmes, comme on dit. Et puis après, comme j'étais pianiste, je mettais des musiques dessus, je chantais. Et j'ai donc été reçue, effectivement, dans une école de chansons qui s'appelait le Studio des Variétés. Ouais. Et c'est là que je suis venue à Paris. Et j'ai fait 2 ans au Studio des Variétés. Je suis sortie, j'avais 19 ans, donc j'étais encore très jeune. Mes parents m'ont dit, bah, tu fais quoi maintenant ? Donc j'ai fait des études de lettres.
Mais vous avez passé une maîtrise de lettres,
voilà,
je crois.
J'ai fait une maîtrise de lettres et parallèlement, comme je ne voulais pas lâcher mon côté saltimbanque, j'ai fait du théâtre. J'étais reçue à l'école nationale de Chaillot, qui m'a formée comme comédienne. Donc je commençais à avoir pas mal de formations finalement, tous azimuts. Et j'ai commencé un peu comme ça à écrire des nouvelles, des petites choses. Je me souviens que j'ai écrit, je devais avoir 24-25 ans, un début de roman qui devait faire 70 pages, parce que j'avais rencontré quelqu'un qui était un journaliste, qui connaissait du monde et qui m'avait dit « si vous écrivez, faites-moi lire ». Finalement, il n'avait pas lu du tout. Donc j'avais arrêté d'écrire, en gros, je ne peux pas être si convaincue que ça.
Mais vous disiez justement, le roman c'était pour les gens voilà, qui avaient vécu, mais quelque part vous avez commencé à écrire quand vous-même, vous aviez déjà vécu plusieurs expériences, vous aviez déjà navigué dans plusieurs milieux artistiques, c'est lié à ça ou pas vraiment ?
Peut-être que l'autorisation est venue, j'avais mon premier roman, je l'ai publié, j'avais 40 ans, donc c'est vrai que c'est finalement assez tard, maintenant je vois qu'il y a beaucoup d'écrivains qui publient tôt. Je pense que je me donnais pas l'autorisation de m'aventurer en littérature. Je commençais à comprendre que, voilà, à 40 ans, j'avais effectivement vécu. En plus, c'est à la vie, ça ne m'avait pas épargné. Donc j'avais l'impression d'avoir gagné en densité et peut-être d'avoir un peu plus de choses à dire, de savoir mieux comment les dire. J'avais la sensation que j'avais des choses à dire et que j'observais des choses.
Oui, c'est ça.
Mais je ne savais pas si j'allais trouver les mots pour le dire, comme dirait notre cher Marie Cardinal. Donc non, je tournais autour et c'est grâce à une pièce de théâtre, Trait d'Union. Là, il y a eu un autre journaliste qui s'appelle Michel Field qui est venu voir cette pièce, qui m'a dit « j'aime beaucoup ce que vous avez écrit, etc. Est-ce que vous avez d'autres choses en cours ?» Et je lui ai répondu « j'aimerais bien écrire un roman, mais... je ne sais pas, je ne connais personne, je ne sais pas si j'irai au bout. » Et là, il m'a dit, je lirai. Là, j'ai été au bout de mon texte. Je suis allée au bout d'un texte, je l'ai appelé, il a mis du temps à répondre, mais finalement, il a répondu. Et c'est grâce à lui que j'ai rencontré Betty Mialet, qui était mon éditrice.
Oui, votre éditrice. Alors, vous êtes née à Limoges, enfin à Montauban, du coup.
J'ai grandi à Montauban.
Vous avez grandi à Montauban. Depuis lors, vous avez navigué dans plein de milieux artistiques différents, on vient de le rappeler, les planches, le cinéma, parce que vous avez été réalisatrice aussi, les lettres, la télévision. Quels souvenirs vous gardez de cette ville et de votre arrivée à Paris ?
Ça a été essentiel pour moi, l'arrivée à Paris. Ça a été comme un choc, comme une déflagration. À Montauban, j'étais presque déjà une petite star sur place parce que j'avais chanté au théâtre, j'avais eu l'article dans La Dépêche.
Okay. Ça devait être quelque chose.
J'avais joué dans plein de pièces. Je sentais que j'étais allée au bout de ce que je pouvais faire dans cette petite ville.
Okay.
Ouais. Mais j'ai commencé très tôt dans le club de théâtre de la ville et on m'a tout de suite confié des rôles importants. Puis j'ai chanté dans le festival Alors Chante, qui était un grand festival, qui est devenu un grand festival de chansons, mais qui débutait en même temps que moi, mais qui était très observé. Et donc j'ai eu cette sorte d'impression que la ville était trop petite pour moi.
Ah, vous aimiez ça quand même, cette lumière, cette petite notoriété locale.
Enfin, je ne sais pas. Est-ce que j'aimais ça ? Ça, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si j'aimais ça. J'avais une sorte d'appétit, de curiosité, d'envie de me confronter, de rencontrer. En fait, je crois qu'une des premières choses qui m'a motivée dans ma vie artistique, étrangement plus que la création elle-même, c'est la rencontre avec les créateurs. J'avais l'impression que c'était des gens extraordinaires. Et c'est vrai, mais c'est pas tout à fait vrai non plus.
C'est plus nuancé que dans tous les milieux, en fait.
Mais quand on est de province, quand on est dans sa ville et qu'on voit les écrivains à la télévision, ou bien les artistes, ou bien les chanteurs, c'est le seul truchement par lequel on les rencontre, ce sont les médias. Donc, quand je suis arrivée à Paris, je suis arrivée dans cette école de chanson, donc voilà. C'était pas mal parce que j'étais encadrée. Mais sauf que je suis arrivée au milieu de gens qui, eux, n'avaient pas du tout la même impression que moi. Parce que eux, pour pas tous, mais une grande partie, vivaient déjà à Paris. On croisait tout le temps des artistes, connaissaient déjà le père de Bidule, la sœur de machin, le truc. Connaissaient les lieux où il fallait aller, les noms de clubs, les noms de théâtres. Tout ça, j'étais larguée complètement. Ouais. Et ça, ce gouffre qui s'est ouvert en me disant « mais je ne sais pas de quoi on me parle ». Sauf que j'avais heureusement des professeurs qui m'encourageaient beaucoup à pratiquer mon art. Mais sinon, j'avais l'impression de débarquer sur une autre planète. Et cette sensation d'être sur une autre planète... je crois qu'il y a un moment où on percute le réel.
C'est ça.
Et ça nous demande de nous arrêter, de refaire un point pour retrouver dans quoi on s'ancre. Ouais. Voilà.
Et c'est un de ces chocs avec le réel qui vous a donné envie, en tout cas qui vous a guidé vers l'écriture de la fantasy. Dans plusieurs entretiens, vous expliquez avoir traversé un épisode mélancolique et qu'il a été à l'origine de votre nouveau roman. C'était quoi cette mélancolie? Pourquoi avoir choisi ce mot en particulier? Parce qu'aujourd'hui, on parle souvent de déprime ou de dépression, etc. On utilise assez peu la mélancolie. J'ai trouvé que c'était assez poétique.
Oui, c'est parce que il me paraît plus juste par rapport à ce que j'ai traversé. J'ai une maman dépressive. Je sais ce que c'est que la dépression. D'accord, comme spectatrice. Et je suis pas passée par ça. Oui. C'est pas aussi fort. Moi, c'était pas ça. C'était plus, pour ça que j'emploie le mot de mélancolie, c'était plus un nuage un peu gris qui stationne et dont on se dit ça va se lever demain, puis ça se lève pas, puis ça reste un peu, puis ça reste. Et au bout d'un moment, la question se pose de comment on sort de ça. Et c'est là que j'ai envisagé la question de l'humour et de la fantaisie, parce que je me suis dit, ce qui se passe quand on est comme ça sous une chape de mélancolie, c'est qu'on n'a plus de décalage. Voilà.
On n'a plus de distance.
On n'a plus de distance. Et les choses vous arrivent de... Soit elles sont amorties par une sorte de ouate un peu molle, comme ça. Soit au contraire, on est griffé par le réel et tout nous fait mal. Donc, c'est pas très agréable à laisser prolonger, quoi. La mélancolie a du bon sur un petit temps comme ça, mais on peut pas naviguer trop longtemps dans cette eau trouble-là. En tout cas, est-ce qu'on laisse la mélancolie nous gagner? Et jusqu'où?
Voilà. Mais justement, est-ce qu'on laisse la mélancolie nous gagner et jusqu'où? C'est la question que vous vous êtes posée, mais vous avez visiblement trouvé un remède. Et moi, ma question, c'était, est-ce que la fantaisie, ça a vraiment été votre remède?
Ben oui, parce que je crois beaucoup à l'humour, à la comédie, comédia même. J'en ai écrit, je travaille avec ce matériau-là. Et pour pouvoir le garder un peu en éveil, il faut savoir se décaler, parce que sinon, c'est impossible. Donc, le fait de m'obliger à réfléchir là-dessus, ça a été mon remède, puisque j'étais obligée, pour écrire la fantaisie, de ranimer en moi cette corde, et puis d'aller relire des textes qui, à l'époque, quand je vous parlais de mes lectures de jeunesse, j'avais aussi des lectures qui me faisaient rire, comme John Irving, comme Philip Roth, qui ont une fantaisie folle. Et donc, je me suis souvenue de ces lectures-là, et je me suis dit, s'il me semble que le remède est là, eh bien, écrivons là-dessus, comme ça, je serai obligée d'aller lire ces textes qui me font rire, et qui me... Donc, ça a contribué...
Quand même.
Mais ce n'est pas une formule magique. Je pense que ça s'entretient en vérité.
Oui, c'est ça, en fait.
Parce que sinon, on peut rapidement se laisser regagner par le ouais. nuage gris. Donc, il faut... Enfin, c'est une histoire de nature aussi, peut-être.
Peut-être, oui.
Donc, c'est une façon d'entretenir un peu son esprit, hein, au sens... ancien du terme,
en sens, ouais. voilà. Mais en tout cas, moi, je me suis dit, c'est la méthode fantasy de Muriel Magellan que vous avez trouvée pour vous, mais également pour vos deux personnages, les deux personnages principaux du roman, Mona et Philippe Sandre-Lévy. Mona qui a bien besoin de retrouver goût à la vie, et Philippe Sandre-Lévy qui lui a carrément besoin de rire un bon coup et de se détendre un peu. On en reparle tout de suite, juste après cette petite pause musicale. C'est le titre « It serves you right to suffer » du chanteur américain John Lee Hooker, qui occupe une très grande place dans votre roman. Mais cette fois-ci, c'est le titre remixé par le DJ français The Avener. À tout de suite.
Serve your right to suffer. Serve your right to be alone. Serve your right to suffer. Serve your right to be alone. Because you're still living in a day gone back and gone. Serve your right to suffer. Serve your right to be alone. Serve your right to suffer. Serve your right to be alone. That's why you can't keep trying. Serve your right to suffer. Serve your right to be alone. Serve your right to suffer. Serve your right to be alone. Your doctor put you on milk, cream, and alcohol. You're still living in. Every time you see a woman, she makes you think of yours. Every time you see a woman, she makes you think of yours. She treats you so bad. She makes you think of yours. Every time you see a woman, she makes you think of yours. She treats you so bad. You're still living in the day.
C'était « It Serves Right to Suffer » de John Lee Hooker, remixé par The Avener.
Le temps des chouquettes, une émission présentée par Théo Potier.
Vous êtes toujours dans le temps des chouquettes, toujours au bon endroit avec Muriel Magellan, que je reçois aujourd'hui pour son tout nouveau roman « La Fantaisie ». publié aux éditions Mialet Barreau. Alors, j'en ai un peu parlé au début de l'émission. C'est d'abord l'histoire d'une femme, Mona, qui n'a plus de mec, plus de travail et qui ne peut plus voir sa fille Madeleine parce qu'elle a passé quelques mois en hôpital psychiatrique. Elle finit par sortir, par retrouver un peu de travail et surtout un petit logement de 14 mètres carrés, je crois.
Ouais, un peu plus.
Un peu mais... plus, ouais. Autant dire un palace dans un immeuble de la cité Kennedy. Et dans son petit studio, elle tombe sur un manuscrit, Jonas Eastbourne, scellé dans une des marches de l'escalier qui mène à son lit mezzanine. Et c'est là que tout commence, puisque le narrateur du manuscrit semble s'adresser à elle directement, partager les mêmes goûts musicaux, et surtout, il semble partager les mêmes tourments existentiels. Tout ça va donner envie à Mona de rencontrer l'auteur du manuscrit, Philippe Sandre Lévy, que Mona s'imaginait être un enthousiaste, un peu déluré, et qui s'avéra un peu moins original, mais non moins attachant. Et au fur et à mesure de sa lecture du manuscrit et de ses rencontres avec ce fameux Philippe, elle va tout doucement recommencer à vivre. Vous l'aurez compris, chère Chouquette, on suit plusieurs histoires dans ce roman et c'est ce qui fait de la fantasy un roman très généreux et très gourmand aussi. Avec vous, on voyage chez Rabelais, Cervantes, dans le Talmud, on danse sur des morceaux de blues et on se balade dans la banlieue parisienne. C'était important pour vous cette générosité, ce côté banquet littéraire façon Gargantua?
Ah, c'est marrant, oui. En tout cas, le côté banquet littéraire, j'avais envie de le faire dans le manuscrit qu'elle trouve. Parce que c'était un des défis d'avoir deux styles,
ah, c'est-à-dire vraiment,
le style de la narration principale et le style du manuscrit qu'elle trouve. Et comme c'est pas trop dévoiler les choses que de dire que Philippe Sandre Lévy avait écrit ça quand il était jeune,
voilà.
Quand il avait une vingtaine d'années, il fallait que je retrouve moi-même, vous me parliez des recettes pour relever la mélancolie, de se replonger sur ce que c'est que d'être jeune, c'est pas mal. Comme recette, parce que du coup, j'ai dû retrouver ce moment par rapport à la langue, où on est pléthorique.
C'est ça, d'excès, de grandiloquence,
de citations,
de
grands mots, d'utiliser des mots que les autres n'utilisent pas, et tout ça. Donc, ça m'a amusé de chercher cette langue-là, tout en essayant de faire qu'elle soit chouette à lire et agréable et
c'est très
vivante. Voilà.
Parce que moi, j'ai eu l'impression de lire un manuscrit vraiment d'un étudiant à l'ENS, comme j'ai pu en connaître quand moi j'étais en philo.
Plaisir. Ça me fait très plaisir.
Ah oui,
parce que c'est
quoi.
Ça que je voulais. Les jeunes gens me surprennent.
Ah oui.
Hein, c'est marrant, mais on se dit, mais ils n'ont rien vécu. Ils savent déjà tout ça. Comment c'est possible? Et ils le savent parce qu'ils l'ont lu, digéré.
Oui.
Et puis qu'ils n'ont aucune honte à le redire.
Avec
théâtralité. Et donc, c'est ça que j'ai tenté de faire dans ce manuscrit, qui donne la vie, l'énergie de ce manuscrit.
Alors, dans la fantasy, il y a de la générosité, il y a ce côté banquet littéraire, mais on rit aussi beaucoup. Moi, je trouve que vous avez laissé une grande place au rire et à l'autodérision, et le tout sur fond de références au judaïsme qui sont très importantes, déjà par le nom des personnages, par les allusions au Talmud. Et en vous lisant, je me suis demandé si l'humour juif avait été pour vous un moyen de retrouver aussi la fantasy.
Oui, bien sûr. Ouais. Ça a fait partie des lectures que j'ai eues au moment où je me suis penchée sur ce sujet. Je me suis dit, il faut vraiment que je retourne à l'humour juif. Et c'est vrai qu'il y a dans l'humour juif quelque chose. Donc moi, je suis juive de mes deux parents, enfin par mes deux parents. Et il y a quand même dans cet héritage l'art de l'autodérision et l'art de rire du drame.
C'est ça.
Et c'est vraiment ça qui est très précieux.
Ouais.
Parce que ça permet de réfléchir sur le drame aussi. Quand on arrive à en rire, c'est qu'on se place, on se décale suffisamment pour pouvoir ensuite y réfléchir.
Alors, dans le manuscrit Jonas Eastbourne, parce que dans le roman, alors c'est le roman La Fantaisie, mais dedans, il y a un manuscrit qui s'appelle Jonas Eastbourne, je le rappelle juste pour nos auditeurs. Et donc, le narrateur de ce manuscrit propose un remède contre les tourments de l'existence, c'est le retelling. C'est le fait de re-raconter, moi je l'ai compris comme proposer un récit des événements de sa vie avec plus de couleurs, avec plus de fantaisie justement. Et je me suis dit, mais le retelling, se remettre en récit, c'est ce qu'on fait avec un psy, en fait. Non?
Pas forcément.
Pas forcément.
Pas forcément, parce que ce qu'on fait avec un psy, ça peut... Non, le retelling, c'est se rendre le héros de l'histoire.
Ouais.
C'est vraiment ça. Alors qu'avec un psy, on n'est pas toujours le héros. Puis, je pense, enfin, je ne sais pas comment
il
vous faites.
Il se passe autre chose, bien sûr.
Bien sûr qu'on parle de soi, hein, mais on n'est pas en train... Non, c'est plutôt vraiment la question du créateur de fiction. Sauf que le retelling est un exercice oral, alors que le créateur de fiction fait souvent de l'écrit, des scénarios. Mais c'est de se dire, bon, ben voilà, Muriel, tu vas faire un film sur Théo. Voilà. Il faut que tu fasses un film sur Théo. Et vous allez me raconter votre journée d'hier. Et puis, bon, on va se dire, ça va être compliqué de faire un film. Et puis, tout à coup, on va trouver la façon d'en faire un film. Vous voyez ? C'est ça qui m'intéresse. Parce que nous, on est raconteurs d'histoire. Donc, dans votre journée, dans les suspens, dans les petites choses que vous aurez attendues, peut-être le coup de fil que vous deviez avoir qui n'a pas eu lieu, etc. Tout à coup, ces choses-là qui, pour vous, sont anodines, vont devenir centrales. Et même chose si, s'il arrive qu'on nous dise de faire un retelling sur un événement dramatique, c'est de le regarder de façon à ce que, certes, il est dramatique, on ne contourne pas ça, mais c'est héroïque, parce que ça nous est arrivé. Et moi, j'aime bien ça, parce que je pense que, vous l'avez dit, c'est un hommage à la fiction.
Mais oui.
Je crois que le retelling ou bien la fiction rend le réel supportable.
Oui.
L'humour rend le réel supportable.
Quelques questions hors sol pour finir l'interview, quelques questions rapides. Est-ce que ce livre a changé quelque chose en vous ?
Je crois que chaque livre change quelque chose. On peut pas, ça peut pas être autrement, je pense. Celui-là, je pense que par rapport à l'écrivain que je suis, il m'a demandé un travail que je n'avais pas vu venir. Je pensais que le sujet, je le tenais, vous voyez. Et en fait, il m'a échappé. Et j'ai dû beaucoup, beaucoup plus travailler que je ne pensais.
Qu'est-ce qui vous réconforte aujourd'hui ?
Qu'est-ce qui me réconforte ? Je sais pas, je pense toujours la poésie, toujours la musique, un petit peu le sport. J'adore regarder le sport. Je trouve qu'il y a quelque chose de très apaisant et normalement un esprit, pas toujours, mais voilà.
Si vous pouviez retourner dans votre enfance, quelle serait la première chose que vous feriez ?
Si je retournais dans mon enfance... Je pense que je jouerais au basket dans le jardin. J'ai une photo de moi où je suis en train de dribbler. Je suis toute petite, j'ai une main dans le dos, puis je dribble avec le ballon, avec l'autre main. Ouais. Et pour moi, c'est une photo heureuse parce que j'aimais bien me mettre dans le jardin et puis faire des choses avec les ballons. Voilà.
Est-ce que vous priez ?
Non. Je n'ai pas de foi. Je n'ai pas de foi en Dieu.
Ouais.
Après, pour être très exact, que je comprends très bien que l'homme ait inventé Dieu.
Ouais.
Parce que je comprends qu'il ait besoin de prier.
Et justement, et les hommes dans tout ça ? Dernière question.
Bon, je les aime malgré tout.
Ouais. Nous aussi dans le temps des chouquettes. Merci beaucoup Muriel Magellan.
Merci à vous vraiment pour ce bel entretien.
Je rappelle que votre tout nouveau roman La Fantaisie vient de paraître aux éditions Mialet Barreau. Je ne peux que vous encourager à le lire si vous avez un petit coup de mou. Je vous conseille également son dernier film La Page Blanche qui vous redonnera le sourire et foi en l'amour, ça je vous l'assure. Je remercie Gabriel Bayer à la réalisation sans qui cette émission ne serait pas possible et Louise Roger pour le générique. Quant à nous, Chouquettes du monde entier, on se retrouve le 25 mai bien sûr avec le jeune auteur Louis Vandel. D'ici là, passez un bon week-end et menez une belle vie de chouquette. À très vite.